Chapitre 67. Jona Lina dispose d'un bureau de 400 mètres carrés dans un bâtiment étroit de verre et d'acier entre la rue Torsgatan et l'infrastructure ferroviaire de la gare centrale. Les locaux, qui ont appartenu à la Collector Bank, semblent avoir été vidés dans la précipitation. Quelques chaises ergonomiques ont été laissées avec des bureaux à moitié démontés, des câbles poussiéreux et des brochures piétinées. Le premier soir, il se prépare un plat de pâtes tout simple dans la petite cuisine prévue pour le personnel, prend un verre de vin et s'installe pour manger dans la salle de conférence sombre. À travers de grandes fenêtres sales, il voit le réseau de rails ferroviaires rouillés et les trains qui entrent en gare. Les bulletins d'information de tous les médias ne parlent que de l'assassinat du secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis. Aucun suspect n'a été arrêté et on évoque un scandale policier pire que celui du meurtre d'Olof Palme. Le FBI envoie ses propres experts et le ton monte entre les deux pays. L'attaché de presse de la CEPO répète que toutes les menaces connues avaient été surveillées de près et qu'on suivait un protocole de sécurité strict à tous les niveaux. Jona lit le rapport d'autopsie d'Absalon Rajen qui a été assassiné devant sa femme et ses enfants. Il pose son assiette sur un caisson à tiroir et songe aux aiguillages impitoyables des rails. À une époque, Jona était marié et avait une petite fille. Aujourd'hui, il est seul. Les souvenirs le submergent. Son père, sa mère, Souma, Lumi, Dissa et Valeria. Le soir, il se couche dans le hall sur un canapé décoloré par le soleil. Dans ses rêves, il entend Souma rire tout bas près de son oreille. Il se retourne et la voit. Elle est pieds nus et le ciel derrière elle est en feu. Elle a sur la tête une couronne de mariée tressée avec des racines rouges. Dès 8 heures du matin, arrive la livraison de la NOA dans des cartons de déménagement. Ordinateur, imprimante, scanner et tous les dossiers de l'enquête préliminaire. Maintenant, il peut commencer à travailler pour de bon. Jona sait qu'aucun des trois meurtres n'a été commis par des terroristes, mais par un seul tueur à la chaîne. Il pourchasse un assassin qui a un plan élaboré et qui va vraisemblablement commettre d'autres homicides sous peu. Sur un grand mur, il colle des photographies des trois victimes, puis il dessine le réseau complexe de parents, d'amis et de collègues. Sur le mur en face, il tire des lignes chronologiques qui suivent leur enfance, leur jeunesse, leurs études et leur carrière. Dans la grande pièce que la banque en ligne a probablement utilisée pour ses réunions au sommet, il couvre les murs de photographies des scènes de crime, des vues d'ensemble, des gros plans, des esquisses et l'abondante documentation de l'autopsie d'Absalon Rajen. Il emprunte le couloir qui mène à la cuisine pour poser des piles de compte-rendus rédigés par le médecin légiste et par la police scientifique, puis il aligne des procès-verbaux d'interrogatoire menés avec des membres de la famille, des amis et des collègues. Il empile par terre dans le bureau des copies de données fournies par la population et 3 mails d'une journaliste qui demande un profil criminel à la fois de l'assassin d'Absalon Rajen et du sniper dans l'une des tours jumelles. Son téléphone vibre dans sa poche. C'est le département médico-légal de l'Institut Karolinska qui essaie de le joindre. « C'est légal, tout ça ?» demande l'aiguille de sa voix nasale. « Quoi donc ?» sourit Jona. « Je veux dire, est-ce que tu es de nouveau dans la police ? Est-ce que tu diriges l'enquête préliminaire ? Est-ce que tu es habilité ?»«
Je crois, oui. »«
Tu crois ?»«
En ce moment, on dirait, » précise Jona.
Je préfère en tout cas rester anonyme quand je réponds à ta question, déclare l'aiguille, et il s'éclaircit brièvement la gorge. Absalon Rajen a saigné pendant exactement 19 minutes avant d'être achevé, ce qui se trouve être précisément le laps de temps entre la première balle qui a touché Teddy Johnson et celle qui l'a tué. J'y aurais peut-être vu un hasard si ce n'était pas toi qui avais posé la question. Merci pour ton aide, l'aiguille.
« Pas de nom, je suis anonyme, » rectifie-t-il, et il raccroche. Jonah regarde les photographies sur le mur et se dit qu'à partir de la quantité de sang et des éclaboussures dans la cuisine du ministre des Affaires étrangères, il avait deviné qu'il s'était écoulé plus de 15 minutes entre la première balle et celle qu'il avait achevée. Il sait désormais que la réponse exacte est 19 minutes. Il est persuadé que quelque chose relie les trois victimes entre elles. Ce lien sera la clé qui ouvrira la serrure. Les cibles ne sont pas choisies au hasard. Entre William Falk et Teddy Johnson, les liens sont presque trop nombreux. Ils remontent à leur adolescence au lycée de Ludwigsburg, tandis que Rajen apparaît comme totalement à part. Sa vie a été tout autre. Jonah ne trouve pas un seul point dans la vaste documentation qui soit commun à tous les trois. Une coupure d'Orlando Sentinel montre une photo du ministre suédois et de Teddy Johnson quand celui-ci était gouverneur de Floride, posant devant une orque qui fend l'eau. La vie de Rajen a emprunté de tout autre chemin. Cet homme semble aux antipodes des deux autres. Pourtant, Jonah est certain que quelque chose les relie tous. La porte d'ascenseur s'ouvre à l'accueil et il entend un léger coup frapper à la vitre de la salle de réunion. Saga Bauer entre et lui offre avec un sourire une salière et un pain en traditionnel cadeau d'emménagement. « C'est sympa chez toi, » plaisante-t-elle. « Un peu plus grand que ma chambre à Kumla. » Saga passe avec précaution entre les piles de documents posées par terre et regarde par la grande fenêtre avant de se tourner vers Jonah. « On n'est pas censé avoir de contact, » dit-elle. « Mais Werner a tout de même accepté que je continue de travailler sur l'enquête préliminaire et ça m'a fait tellement plaisir que, sans le faire exprès, j'ai fait tomber des papiers de son bureau et un rapport a atterri droit dans mon sac, ce que je n'ai pas remarqué avant d'arriver chez moi. » « C'est quoi comme rapport ?»« Les investigations de la CEPO sur la famille de Salim Rajen, » explique-t-elle, et elle sort le dossier de son sac de sport. « Oups !»« Tu comprends bien que je ne dois surtout pas l'oublier ici, et je ne dois absolument pas dire qu'il peut être utile si tu cherches toujours un lien entre Absalom Rajen et William Falk. » Jonah prend les documents et les feuillettes jusqu'à ce qu'il trouve les pages concernant Absalom Rajen. De loin, il entend Saga dire qu'elle descend leur chercher un café en bas. « Tu en veux un ?» demande-t-elle. Il est plongé dans l'histoire d'Absalom Rajen, qui a déserté pendant son service militaire, et il se contente de murmurer qu'il brûle, qu'il doit réfléchir. Absalom avait 17 ans quand il est arrivé en Suède, presque 3 ans avant son frère Salim. Jonah a lu des extraits des fichiers de l'Agence pour l'emploi et il sait déjà qu'Absalom a suivi des cours de suédois et qu'il a été candidat à tous les postes qui se présentaient, mais la CEPO dispose de bien plus de renseignements. Ils ont trouvé son nom dans une enquête abandonnée concernant des infractions fiscales au sein d'une entreprise de nettoyage. Il faisait partie d'un groupe de demandeurs d'asile soupçonnés de travailler au noir comme agent d'entretien, mais comme il n'avait jamais touché le salaire promis, toutes les tentatives de poursuite judiciaire étaient tombées à l'eau. Jonah entre dans le bureau tout en longueur avec vue sur le centre d'art Bonnierskonsthal. C'est ici qu'il a rassemblé les quelques faits avérés concernant le criminel d'un côté et des paramètres possibles de l'autre. Il a aussi établi une liste des formations militaires de pointe partout dans le monde qui enseignent les techniques que le meurtrier a utilisées. Il examine les photographies médico-légales des blessures sur le corps de Rajen. Le couteau n'est pas encore identifié, mais la large lame a le dos dentelé et un tranchant extrêmement aiguisé. Le coup mortel à travers les cervicales a été donné avec une machette à la lame rouillée. Jonah s'assied par terre et continue de lire les rapports de la CEPO. Le sinistre mail en anglais où il était question de dévorer son cœur était envoyé par un collègue au Canada et faisait référence à un combat à venir entre des robots en Lego. Le message vocal contenant la comptine sur les lapins avait été laissé à partir d'un téléphone à carte qui n'est plus en service. Saga revient et pose un gobelet de café à côté de lui. « Tu trouves des choses intéressantes ?»« Juna parcourt la liste de numéros de téléphone, d'adresses IP et de date et heure exacte. Il prend une gorgée de café et se penche sur la demande de prêt étudiant faite par Absalon. On dirait qu'un des enfants a dessiné avec le doigt dans le sang, dit Saga en montrant les photos de la cuisine d'Absalon. Oui, répond Juna sans lever les yeux. Il parcourt les différents centres d'hébergement pour réfugiés et habitats collectifs qu'Absalon a occupés en comparant les adresses avec celles du ministre des Affaires étrangères et du politicien américain. Ces derniers viennent de familles aisées qu'ils ont quittées pour la première fois quand ils ont intégré le lycée privé de Ludwigsburg. À peu près à la même époque, Absalon quitte un logement communautaire à Huddinge. Un an plus tard, son nom apparaît dans une notification à l'inspection du travail. Juna sent un léger frisson lui parcourir le dos. Absalon avait 19 ans quand un employé de l'Agence pour l'emploi lui avait donné sa chance. Le fils de cet agent travaillait comme concierge dans un internat au sud de Stockholm, mais il avait un problème de drogue. En toute discrétion, l'agent avait proposé à Absalon la moitié de son salaire s'il se chargeait de ce travail jusqu'à ce que son fils revienne de sa cure de désintox. Avant que le poteau rose soit découvert, il avait occupé le logement du concierge pendant près d'un an. Il avait roulé sans permis et manipulé des machines pour lesquelles il n'avait aucune compétence. Juna se lève, s'approche de la fenêtre, sort son téléphone et appelle Anya. Il est certain qu'il vient de trouver le lien entre les trois victimes. Quelqu'un a fait une notification à l'inspection du travail il y a une trentaine d'années. J'ai besoin de savoir qui.
On peut peut-être dîner ensemble pour en parler, roucoule-t-elle.
Avec plaisir. Trois minutes plus tard, il l'entend fredonner « Let's talk about sex, baby » pendant que ses ongles crépitent sur les touches du clavier.
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Le nom de l'école et de celui qui a envoyé la notification.
Simon Lee Olson.
Il était proviseur au lycée privé de Ludwigsburg. Quand Juna a raccroché, Saga laisse tomber son gobelet dans la corbeille à papier et croise son regard.
« Ça y est, tu as trouvé le lien, » constate-t-elle.
Absalon a fait un remplacement comme concierge au lycée de Ludwigsburg à l'époque où William et Teddy terminaient leur scolarité là-bas.
Alors le lycée serait la clé ?
D'une façon ou d'une autre. Juna se plante devant une photographie scolaire vieille de 30 ans et voit que les deux futurs politiciens étaient dans la même classe et faisaient partie de la même équipe d'aviron. 8 garçons vêtus de blanc aux larges épaules et aux biceps gonflés.
Il y a une autre personne dans l'enquête qui a fréquenté ce lycée, fait remarquer Saga.
Qui ça ?
Rex Müller.
Je connais ce nom.
Oui.
Il cuisine à la télé. Je sais qu'il cache quelque chose, mais en même temps, il a un alibi pour chaque meurtre, répond-elle. On l'a interrogé parce qu'il a été filmé en train de pisser dans la piscine de William Falk. Il était ivre.
Il n'y a rien écrit là-dessus dans la documentation.
Et Anessa a repris cette partie-là.
C'est toujours sur fond de détails que la vérité se détache, dit Juna.
Je sais. Pourquoi est-ce qu'il a pissé dans la piscine ?
Une provocation idiote d'ivrogne.
C'est ce qu'on commence par se dire, avant qu'un morceau de puzzle vienne s'ajouter et que Rex Müller se retrouve subitement au centre de l'attention, réplique Juna.